Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit dans le cadre de ce rapport de 10,5 millions, 5 millions. Donc il semble que, selon nous, effectivement, la répartition nous semble assez juste. Vous parlez de promouvoir les modes alternatifs à la route en faveur du développement durable. Si c'est vrai pour le DGV, ça devrait l'être aussi le ferroutage. Et je vous rappelle quand même que depuis 1986, que cette option a été lancée, rien n'a été fait depuis 30 ans. On peut quand même regretter qu'on expose ici exactement ce qui n'a pas été fait. Donc nous sommes d'accord sur le principe, mais cela nécessite effectivement des éclaircissements. D'abord, pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à obtenir de fonds européens comme les Espagnols en ont bénéficié sur leur réseau? Ensuite, effectivement, vous l'avez relevé, il n'y a absolument aucune certitude sur les travaux de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan qui devraient débuter en 2018 ou 2019, mais nous avons quand même certaines inquiétudes à ce sujet-là. Nous voudrions aussi savoir si on peut quantifier ce que coûtera pour le contribuable du Languedoc-Roussillon et pendant combien de temps ces frais seront répercutés sur nos impôts. La ligne mixte, on l'a déjà dit, c'est intéressant. Elle coûte cher, mais bon, d'accord, nous sommes pour le ferroutage. Autre réflexion, ne peut-on dire qu'il manque à cette ligne, finalement, 160 km? Pourquoi pourrions-nous pas aller jusqu'à Madrid? Ensuite, c'est le problème des deux gares qui sont peut-être pas forcément dans le sujet. Mais je crois que l'intérêt des deux gares, s'il vous plaît, c'est de multiplier les fuseaux et l'offre. Et il semble que ce sera sûrement, en tout cas, très coûteux, mais plus... Ben parce qu'on parle de l'étude et du fonctionnement de cette... cette étude va quand même étudier la répercussion des frais de l'itinéraire et forcément des gares. Il faut en parler. Vous en avez parlé aussi. Et quand on parle de Perpignan, à un moment ou à un autre aussi, il faudra savoir si ça va jusqu'à Perpignan et s'il y aura une gare. Donc c'est un sujet sur lequel je souhaiterais effectivement avoir des éclaircissements, d'autant que si on parle de gare, il faudra un moment ou un autre parler de la gare TGV de Narbonne. Parce qu'effectivement, vous paraissez bien optimiste, mais si une gare TGV se fait à Narbonne, il semble vraisemblablement que le centre de communication de la future grande euro-région sera Narbonne. C'est aussi un aspect qu'il ne faudra pas écarter. Dernière question, et je vous remercie, j'allais vous en prier. Vous avez un peu fait une digression. S'il y a fusion Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, qu'en sera-t-il de cette ligne? Comment évoluera-t-elle? Et j'aurais souhaité effectivement par là même, là vous venez de nous en faire un petit peu l'écho, d'avoir un petit peu connaître les suites des débats à l'Assemblée nationale, parce que j'ai bien relevé effectivement que votre amendement a été retenu, mais je dois dire encore, je reviens une nouvelle fois là-dessus, que certains ici, parlementaires, n'ont pas été très clairs sur le positionnement par rapport à cette fusion. Je souhaiterais un moment ou un autre qu'ils le fassent. Et notamment, un projet qui a été, même si il y a un ancien et quelques autres, et un ancien conseiller régional, je veux me parler de notre ami M. Bertrand, qui lui-même d'ailleurs a déposé aussi un amendement qui viserait à demander le détachement de la Lozère sur l'Auvergne, et le Gard aussi demain avec la PACA, et pourquoi pas l'Aude effectivement, puisque M. Violet et quelques autres sont d'accord avec les Midi-Pyrénées. Je crois qu'il faudra aussi, au-delà de tout ça, être très attentif, et je voudrais savoir si vous avez, vous, en main, assez d'atouts pour maintenir notre territoire, l'empêcher de cette fusion, mais aussi, surtout, maintenir le Languedoc-Roussillon dans l'État, enfin, je veux dire, dans son aspect territorial intègre, voilà, son intégrité. Voilà. Merci de votre attention.
Je me permets de vous répondre à ce que vous appelez de ma part un sujet à part, mais c'est la priorité de ma part. Vous posez la question, je vous y réponds là-dessus. Le dossier, donc, était aujourd'hui, à partir de mardi, en fait, hein,
oui.
Était en délibération officielle. Au Sénat.
Il a été retiré.
Et là, il était en commission. On a créé une commission spéciale, donc qui précède le vote de la loi, pour se mettre d'accord sur le cadre constitutionnel. C'est donc une commission des lois bis, si vous voulez appeler comme ça, c'est mon propos, cette commission spéciale qui a été créée. C'est dans cette commission spéciale que je fais passer l'amendement. Donc, et c'est dans cette commission spéciale, dans ce travail, que le gouvernement se rend compte que son étude d'impact est vraiment légère, 3 pages, ça ne suffit pas pour justifier tout ça, et qu'il préfère prendre les devants et demander au Conseil constitutionnel si c'est conforme ou pas. C'est-à-dire qu'il a gagné 5 jours. Alors que nous l'aurions fait mardi. C'est bon augure, puisque aujourd'hui, vous savez que sur ce dossier, c'est n'importe quoi contre un autre. Pourquoi? Parce que décision qui est prise, il faut qu'elle le soit un an avant les élections. La loi qui est votée doit se faire un an avant les prochaines élections pour laisser les électeurs savoir dans quelle région il est, comment ça va se faire. C'est quand on travaille, et chacun connaît cette procédure-là. Donc aujourd'hui, ça n'est au Sénat, je pense que ça risque d'y rester une bonne partie du mois de juillet. Il y aura deux lectures, donc ça doit partir en première lecture après à l'Assemblée, pour revenir au Sénat et repartir à l'Assemblée. Je pense que le gouvernement avait prévu quelque chose d'assez rapide pour le mois de septembre, clôturer tout cela. Bon, cette course du temps est organisée. Et c'est vrai qu'elle pose problème parce qu'on ne peut pas délibérer dans un délai de moins de un an. Ce qui ferait lâcher quelque part prise à certaines élections. Voilà. Je me suis permis de vulgariser, hein, je ne l'ai pas dit.
Non, mais juste une chose, c'est que si je vous demande aussi qu'il y ait une détermination claire de ceux qui siègent ou de nos parlementaires, c'est qu'on peut aussi imaginer que le président Hollande puisse forcer la main des deux chambres et leur demander de se réunir en congrès, moyennant quelques arrangements, et leur demande de se déterminer.
Non,
il faudra à ce moment-là qu'on soit clair.
Non, puisqu'il n'y a pas de majorité. Tout ce qu'il pourrait faire, c'est utiliser le 49-3. Mais le 49-3 n'a pas été utilisé depuis un moment.
Nous parlons de
2006.
Oui, pas grand-chose.
Donc, mais non, il y en a pas. Jospin n'avait pas été mis, c'est Jospin qui a été ouvert le bal. Bon. Voilà, je me suis permis, avec une certaine imprécision, de vous dire un peu.
Et je vous en remercie.
Voilà.
Et pour les départements ?
Pardon ?
Et pour ce déchiquettement, enfin, je veux dire, ce dépeçage-là qui est souhaité par certains sur... Hein ? Non, mais je sais bien, enfin bon...
Ah, excusez-moi, je ne sais pas comment...
Ben non, mais puisqu'il est question, les Lozériens demandent d'être attachés à l'Auvergne, etc. Ah, c'est un amendement qui a été déposé.
Non.
C'est M. Bertrand qui l'a déposé, si,
je suis pas sûr. Ah, M. Bertrand, ça, je me dis aussi.
Oui, bon, c'est quand même important.
Non, je vous le garantis. Monsieur Ponce, c'est la parole. Excusez-moi de cette
digression.
Ce ne sera pas au courant du tout.
Oui, monsieur le Président, ce n'est pas sur la réforme électorale.
On peut revenir au sujet, c'est vrai.
Je vous en remercie. Simplement une précision, d'après ce que j'ai pu comprendre de l'action des sénateurs et notamment de la.